toutes et à tous, vous êtes bien sur Bonjour Turbine, émission enregistrée dans le Media Lab du WIP et diffusée sur Station B et Radio Pulse. Cette émission est également disponible en podcast sur l'audioblog d'Arte ainsi que sur Deezer et Spotify. Peut-être est-ce d'ailleurs de là que vous nous écoutez. En co-animation avec moi, Alain. Bonjour Alain.
Bonjour Roxane.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
On va parler de photographie et même peut-être de photographie expérimentale.
Oh, et pour ça, nous sommes accompagnés de David, Lafken et à la technique Maxence et Théo. Coucou.
Salut Oxane.
Alors, juste histoire de visualiser nos représentations, si je vous dis photographie, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ?
Procédé qui consiste à enregistrer une image à l'aide de la lumière.
Ok, merci. Tu spoiles tout le reste de mon intro, mais c'est super.
J'ai triché, j'ai regardé sur Larousse.
Nickel. David, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, ce mot-là, photographie ?
Moi, un loisir d'abord. Me balader un peu. Et puis prendre les clichés au fur et à mesure de mon inspiration.
Merci David. Lafken ?
Je dirais de l'art, du souvenir et parfois aussi des dossiers pour montrer aux copains.
Ouh, j'ai cru que tu allais dire dossier qui fait pas plaisir quand c'est ressorti.
Ça peut aussi.
C'est ton côté taquin qui ressort.
Je crois.
Maxence ?
Moi je dirais que c'est à la fois le côté moment Kodak. C'est-à-dire tu prends des photos un peu de la vie de tout le temps et l'aspect aussi artistique, bien sûr, de prendre un mouvement, de te dire un peu comme la peinture, quoi. Tu dis j'aime beaucoup ce paysage et je vais le prendre en photo.
Garde en souvenir.
Moi, je dirais c'est un arrêt sur image du réel.
Oh là là, il nous met à l'amende direct. Bon, moi, je vois la page Wikitionnaire. Rubrique étymologie de Wikipédia. Et quand j'ai réalisé que photographie signifiait écrire avec la lumière, j'ai trouvé ça très très beau. Écrire avec des mots ou avec la lumière, c'est à la fois laisser une trace et transmettre un message. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir deux auteurs, si je peux rester dans le champ lexical de l'écriture ou celui de la création, des auteurs qui expérimentent de nouveaux usages, peut-être même de nouveaux langages. Qu'est-ce que la photo expérimentale ? C'est en partie ce que nous allons découvrir ensemble avec nos invités, Linope Carter et Benoît Le Chartier du collectif Surface Sensible. Jingle.
Eh bien, bonsoir. Donc, nous accueillons Linope Carter.
Bonsoir.
Et Benoît Le Chartier.
Bonsoir.
Donc, quand on a décidé de faire une émission sur la photo, ça m'est venu tout de suite à l'esprit de vous accueillir, parce que je suis sensible au collectif Surface Sensible.
Merci Alain.
Avec une autre orthographe et un autre sens. Et parce que j'aime beaucoup vos photos. Donc, c'était deux bonnes raisons. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à la photo ?
Je vais commencer, Linope. Je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. J'ai découvert la photo, je devais avoir 14 ans, en piquant l'appareil photo de mon grand-père, qui était un Kodak à souffler, qui est toujours sur une des étagères de la collection à la maison. Et j'ai déclenché et j'ai fait ma première photo. Voilà, c'est comme ça que c'est venu et je le piquais le plus souvent possible. Après, j'ai eu mon premier appareil photo. Et je m'amusais de temps en temps à faire des photos noir et blanc. J'avais sûrement trouvé... Ah, si, mon premier appareil photo, alors maintenant c'est très recherché par les gens qui font de la photo avec des vieux appareils photo en plastique. Tu sais, c'était un Indo. Bon, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est la pellicule 6-7 qu'on mettait dedans. Et c'était vendu, on avait ça quand on collectionnait les capsules de vin Valnoble. Je ne sais pas qui buvait du Valnoble dans la maison. Voilà, comment j'ai commencé la photo, ce n'est pas très glorieux. Et plus tard, j'avais 16-17 ans, j'ai eu la chance d'être dans un quartier où se créait une maison de quartier et j'avais entendu parler qu'il allait y avoir la création d'un laboratoire noir et blanc. Je ne savais pas du tout, mais j'aimais la photo. Donc, je suis allé voir un petit bonhomme retraité qui s'appelait Léon Edouin, paix à son âme. Et il m'a dit, c'est pas difficile. Tu vas chez le marchand du coin, tu vas t'acheter 1 litre de révélateur, 1 litre de fixateur, une boîte de papier photo, puis tu reviens me voir. Bon, OK, j'y suis allé. Puis il m'a dit, tu vois, tu prends ton négatif, tu le mets là-dedans dans la machine. Il y avait un agrandisseur. Et puis, tu allumes la lumière. Ensuite, tu prends ta feuille de papier. Tu vas le mettre dans ce produit-là, puis dans l'autre produit, puis dans l'autre produit. Tu as ta photo qui apparaît. Voilà comment ça a commencé, ni plus ni moins. Alors, évidemment, la première photo est sortie toute noire. T'imagines bien. Et puis, le soir même, il n'y avait pas Internet, ni les réseaux sociaux, ni rien du tout. Mais je suis allé à la bibliothèque. J'ai acheté des bouquins. J'ai regardé. Et voilà comment l'aventure a commencé. Alors, là, bien ou mal commencé, j'en sais rien, parce qu'après, mon père me courait après parce que je séchais les cours pour aller au labo. Et un jour, j'ai dit, bon, écoute, j'arrête mes études, j'en ai marre. 3 ans de fac, ça a bien suffi. Je vais faire de la photo. Voilà comment ça s'est passé.
Et je suis devenu Benoît
professionnel.
Bon, alors, c'est drôle. J'apprends ce soir que Ludovic Carter a commencé la photo à 14 ans. C'était un coup de foudre. J'étais jeune. Et c'est pareil pour moi. Alors, c'est pas la même histoire exactement, bien sûr, mais à l'époque, il y avait la communion, un solennel, c'était un événement, hein, et rassemblement familial, la grande fête, quoi. Et comme cadeau, c'était bien la communion, il y avait des cadeaux. J'ai eu mon premier appareil photo. Donc, c'était un événement extrêmement important, hein, c'était même fabuleux pour moi, hein. Et. Je me suis reparé avec aussitôt. Hein, j'ai commencé à faire des photos. Et peu de temps après, j'ai eu la chance, j'ai un oncle qui connaissait un petit peu la photographie et qui avait trouvé dans le grenier de chez ma grand-mère un agrandisseur, un vieil agrandisseur, qui l'a installé dans la salle de bain chez mes parents. Une planche sur la baignoire, une petite lampe, une lampe inaclinique au-dessus du lavabo. Et il m'a montré comment faire, pareil.
J'ai fait la planche sur la baignoire, hein, aussi.
Ça voilà, me parle voilà, aussi, moi, c'était voilà, ça. Hein.
Et donc, c'était absolument magique, quoi, cette ambiance. Puis j'aimais cette ambiance un petit peu feutrée, magique. Enfin, la révélation, la photo qui apparaît, bon, ouais, c'était
assez fabuleux. Ça,
assez fabuleux, ouais. C'est un souvenir. Et donc, depuis ce moment-là, ça ne m'a pas quitté. Hein. J'ai toujours fait de la photo à mon niveau. Alors après... Après, j'ai continué à installer de façon un peu plus pérenne, non plus dans la salle de bain, mais dans un coin dans la cave. C'est pareil chez mes parents, dans un petit recoin qui était dans le noir. Il y avait juste quoi mettre une lampe et puis une prise de courant et bricoler quelques photos. Ça n'avait pas la qualité énorme hein, de ce qu'on peut faire maintenant, parce que c'était d'abord un matériel assez sobre, et puis mes connaissances aussi étaient quand même limitées. Mais j'adorais faire ça. Donc c'est mes premiers souvenirs, et ça continue aujourd'hui, 50 ans plus tard. Quoi.
Hein. Alors, à votre avis, pour vous, quelles sont les qualités que requiert la pratique de la photographie ?
Voilà. En ce qui concerne, chacun vit la photographie à sa façon. Il n'y a pas, des amateurs, des professionnels d'un côté, des amateurs de l'autre. Et puis maintenant, avec les smartphones, la diversité des propositions qui sont faites aux gens de faire de la photo, tout le monde fait de la photo à son niveau. Alors, il y a des choix. Moi, j'ai un moment, je faisais de la photo parce que j'aimais ça quand j'étais gosse, jusqu'à 14, 15, 16 ans. Et puis, j'ai eu une rencontre emblématique d'un de mes enseignants qui est devenu un ami et un maître, qui était en la personne de Bernard Caillot. Et puis, la succession des rencontres ont fait qu'à un moment, je faisais des études d'anglais. Ça me barbait, franchement, à part que je pouvais lire les manuels d'appareils photo dans la langue, mais ça s'arrêtait là. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, j'en fais mon métier. Alors après, c'est des rencontres, des opportunités. Ça, c'est le côté professionnel. Après, il y a le côté amateur, et qui est noble. Dans l'amateur, c'est celui qui aime. Et vous avez des gens qui ne seront jamais des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ne gagneront pas leur vie avec la photo. Et mon vénéré maître Bernard Caillot me le faisait bien sentir, puisque j'avais les deux casquettes. J'étais, entre guillemets, celui qui prétendait être un artiste et qui faisait des expositions. Et de l'autre côté, vous aviez le photographe professionnel qui gagnait sa croûte en faisant des mariages, des portraits, des photos d'industrie et autres. Et à un moment, les deux choses se télescopaient, et il m'avait fait... un soir une, autour d'un repas, plus ou moins bien arrosé d'ailleurs, une vie pas possible en me disant mais tu n'es pas un artiste, tu prétends être un artiste, mais tu prépares tes expos en 5 minutes, parce que j'étais rentré dans une problématique professionnelle et je gagnais ma vie avec la photo et je ne savais plus où j'en étais. Il a fallu que je fasse. Je suis reparti en pleurant de chez lui ce jour-là.
Ah, tu m'étonnes.
Et oui, il m'avait mis plus bas que terre. Le lendemain matin, il s'était excusé, mais entre-temps, j'étais rentré chez moi, j'habitais assez loin de chez lui. Et la première partie de la route, je pleurais. La deuxième partie, je me disais, il avait raison. Il avait raison. Et je me suis mis entre parenthèses, côté artistique, pour me replonger dans l'image et me dire je vais faire de l'image et pas des photos de calandres de voiture ou de même ce qui pouvait être très beau, très artistique, mais c'était deux domaines et j'avais les deux casquettes. Donc j'ai opté, je suis parti dans l'enseignement, ce qui me permet d'alimenter ma passion et surtout de faire partager cette passion. C'est comme ça qu'on a recréé Surface Sensible, que nous avions créé avec Bernard Caillot. Et puis là, nous avons un nouveau collectif où on invite des artistes photographes à présenter leur travail à un public beaucoup plus large. On n'est pas une galerie, on n'est pas là pour vendre les œuvres d'art, on est là pour faire connaître des artistes et surtout donner leur chance à des très jeunes photographes. Tous les ans, dans le cadre de ce collectif Surface Sensible, on crée l'aide à la première exposition. Et puis, il y a des tas de gens qui font de la photo pour leur passion de l'image, leur regard. Ils ont leur style, leur feeling et qui ne se confond pas avec les autres. Et c'est comme ça qu'on a des gens comme Benoît qui sont des artistes dans ce collectif et on fait découvrir leur travail. Et il faut les faire parler de leur travail.
En 2 minutes, Benoît, ton travail, vas-y.
2 minutes.
Oui. 2 minutes jusqu'à la prochaine chronique. Après, il y aura encore du temps.
On va le dire aussi à Patrick. moi, c'est pas le même parcours, bien évidemment. Donc, pour continuer par rapport à ce que j'ai dit en introduction, pour présenter comment j'ai découvert la photo, donc ça n'a pas, il n'y a pas eu d'arrêt, hein, mais il y a eu quelques années quand même où surtout c'était des photos de vacances avec les copains, bien sûr, après quelques clichés des vacances en noir et blanc. Et puis est arrivé l'âge d'après, moi je suis rentré en formation après mon bac, je suis rentré en formation à l'école éducateur pour devenir j'ai fait ma carrière dans ce domaine là et j'ai eu la chance aussi pendant ma formation il y avait un labo photo hein, et donc j'ai utilisé beaucoup le labo photo de l'école éducateur, avec plaisir, et que j'ai continué à utiliser longtemps après, parce que même étant professionnel, je suis devenu après encadrant animateur pour les étudiants, pour les initier à la photographie et au tirage au labo. Et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années, quoi. À mon niveau, on n'a jamais fini de progresser, hein, et c'est vrai, notamment depuis quelques années avec le collectif. J'ai développé quand même ma démarche photographique et je pense mon sens que je veux donner le sens que je veux donner aux photos que je prends. Je fais beaucoup de photos, mais j'essaie de trouver effectivement des thématiques qui m'intéressent et qui représentent quelque chose pour moi, qui ne sont pas du hasard, mais qui sont quelque part à la fois enfouis et conscients à la fois. Hein, c'est-à-dire que le regard photographique, c'est quelque chose d'important, qu'on a tous certainement d'une façon différente, mais le tout, c'est aussi un moyen de faire passer un message, de dire qui on est, ce qu'on aime et pourquoi on le fait. Hein, peut-être que je vais arrêter là, parce qu'il y a 2 minutes, mais on va y revenir, je pense, au cours de la discussion.
Mais comme quoi, la recherche de sens, c'est à la fois dans le métier d'éducateur, mais aussi dans la passion et l'amour de la photographie.
Tout à fait.
C'est quelque chose qui est des deux côtés.
Et oui, mais le sens, à tout niveau, dans la vie, il y a plein de recherches de sens à avoir.
C'est vrai.
Moi, le labo photo, je l'avais à l'école normale.
Le labo photo, oui. Non, mais ça doit être génial de pouvoir faire la photo comme ça pendant des études. On va maintenant faire une petite pause et passer à une chronique réalisée par Maxence sur la photo et les jeux vidéo.
Pardon, j'ai pas de jingle moi, donc ça va aller plus vite. Et du coup, la photo et les jeux vidéo, c'est un vaste sujet parce qu'on peut parler à la fois de prise d'image pour illustrer un magazine spécialisé, de mécanique de jeu ou encore de photos d'écran à but artistique. Et j'ai choisi de vous parler un peu de tout ça à la fois. Donc, en ce qui concerne le premier point, à savoir illustrer un magazine, fut un temps où ça n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui de récupérer une image de jeu pour illustrer son propos. Les rédacteurs embauchaient des photographes et prenaient eux-mêmes leur meilleur appareil photo et essayaient d'avoir le meilleur angle et les meilleurs réglages pour avoir l'image la plus nette possible, comme le présente cet extrait de l'émission Micro Kids du 25 septembre 1991 que j'ai chiné sur abandonware-video.org. Donc on va s'écouter ça tout de suite.
Pour faire une photo d'écran, vous utiliserez un boîtier classique de type format 24-36. Vous utiliserez des pellicules de sensibilité moyenne allant de 100 jusqu'à 200 ASA. Vous travaillerez à une vitesse maximum de 15e de seconde et une ouverture de diaphragme de l'ordre de 8. Pour cela, vous vous placez devant votre moniteur à peu près à une distance de 1 mètre de l'écran. Vous faites la mise au point. Dès l'instant que la mise au point est parfaite, vous déclenchez.
Je sais que j'ai nettoyé un peu le son. Donc c'est quand même une sacrée capsule temporelle auditive. Mais avec ces méthodes, autant vous dire que la plupart des images des jeux Game Boy étaient affreuses. Cette console avait un tout petit écran qui n'était pas rétro-éclairé et tout était en nuances de vert. C'est sûrement à cause de la mauvaise qualité des photos de l'époque que les premiers magazines illustraient leurs articles avec des dessins. On peut retrouver tout un stage du jeu Sonic sur Mega Drive dessiné à la main dans le premier exemplaire du magazine Console Plus, consultable sur abandonware-magazine.org. Mais la photo dans le jeu vidéo, c'est aussi parfois une mécanique ludique. On peut penser à Pokémon Snap sur Nintendo 64 ou Nintendo Switch, qui consiste à participer à un safari et à prendre les plus belles photos de ces petites bêtes. Vous pouvez pour cela leur envoyer des pommes afin de les faire interagir et potentiellement capturer un moment encore plus joli. Mais on peut aussi aller dans le moins mignon avec la saga des Project Zero, qui sont des jeux d'horreur slash énigmes, dans lequel votre seule arme est un appareil photo. Vous devrez surpasser votre peur pour prendre en photo vos pires cauchemars. Et plus vous êtes près d'eux, plus vous leur faites de dégâts. Sachez que je ne jouerai jamais ce jeu. Pour finir sur une touche un peu artistique, depuis maintenant quelques années, on a vu l'apparition de modes photo dans nos jeux vidéo. Que ce soit par un menu ou une simple pression de touche, le jeu se met en pause et vous donne l'occasion de changer la luminosité, les contrastes, la saturation, d'ajouter des filtres, parfois même de bouger la caméra dans la scène afin d'avoir un meilleur angle, d'ajouter de la profondeur de champ, de s'amuser avec divers cadres et autocollants à rajouter. Et les jeux récents étant toujours plus joli et inspiré, il n'est pas rare de s'émerveiller devant certains clichés. Le site internet français factornews.com propose un menu slice où les gens peuvent proposer diverses captures réalisées. Je pense aussi à Duncan Harris, un expert qui aujourd'hui est même payé pour mettre à disposition des images promotionnelles des jeux sur les magasins en ligne. Vous pourrez retrouver son travail sur deadendthrills.com. Aujourd'hui, il y a même un réseau social spécialisé dans le partage de captures d'écran qui s'appelle Capture, K-P-T-U-R. Et c'est là-dessus que je termine ma chronique. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté en espérant vous avoir appris quelque chose ou même donner envie à certains à s'essayer de cette pratique.
Et je rajouterais même que grâce à ces super captures, aujourd'hui, il y a même un musée en réalité virtuelle qui existe sur VRChat avec des captures d'écran. C'est génial.
Trop bien. Bah merci, c'est quand même incroyable ce que le progrès technologique nous permet de faire. Merci Maxence et aussi un petit peu l'Afken du coup sur la fin. On a appris plein de choses grâce à toi Maxence, n'en doute pas une seconde. Pour la pause musicale qui arrive, c'est Marion qui, bien qu'elle ait pas pu être avec nous aujourd'hui, est quand même avec nous grâce à la musique parce qu'elle a choisi de nous faire découvrir Click 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 de Bishop Allen. C'est l'histoire d'un mec qui s'incruste sur les photos d'un autre.
Out of the rain into Maria's wedding day, and I sat there with her friends and with her family, and I was happy. I wasn't someone they'd invite, and I didn't know the groom or know the bride, but when I stood next to her brother for the photograph, he was laughing. Take another picture with with your click, 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 click camera. Take another picture with your click, 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 click camera. Sure, I got pictures of my own, of all the people and the places that I've known. Here's one I'm carrying your suitcase outside of Alphabet City. But in someone else's life, where Maria is a wife, I'm on the mantle in the corner of a photograph, smiling pretty. Take another picture with your click, 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 click camera. Take another picture with your click, 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 click camera. Are you tired of the way you've gone? And you think you might belong in a moment when you step out of the rain? And you've ended up in someone else's frame, and the memory now is never quite the same, you know. They never even asked your name.
Eh bien, nous reprenons notre interview de nos deux photographes sous forme d'une espèce de petit questionnaire à deux ou trois réponses. Alors, pour vous, argentique ou numérique ?
Alors, bien évidemment, j'ai fait pendant longtemps de l'argentique. Hein, et puis, je suis passé... à un moment donné, j'ai quitté l'argentique pour acheter mon premier appareil numérique. Actuellement, maintenant, je n'utilise plus l'argentique. J'ai gardé l'appareil, je pense que c'est pareil, je l'ai toujours chez moi, mais je suis passé au numérique totalement.
Tu penses que ça peut revenir comme le vinyle avec les disques ?
Alors, ça revient d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des stages pour découvrir l'argentique. Hein, il y a un courant actuellement qui se développe à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, hein, parce que ça n'a rien à voir, effectivement, hein, entre l'argentique et le numérique. Alors, c'est vrai que c'est une question de facilité aussi, peut-être, le numérique, de fluidité. C'est vrai que je comparais, moi, l'argentique, un petit peu, effectivement, ce qui est roulé avec des belles voitures, des belles carrosseries, etc. Ça a de la classe, etc. Hein, c'est toute une époque. Pour moi, c'est un petit peu pareil à l'argentique. Mais on ne travaille pas pareil, effectivement. On ne travaille pas du tout pareil, effectivement, ne serait-ce que dans la prise de vue. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on a un appareil argentique, on a une pellicule de 24-36 poses, on se pose justement pour faire la photo. C'est un petit peu peut-être les limites du... Enfin, limites au développement, parce que c'est les deux à la fois. Le numérique, on mitraille, quoi. Mm-hmm. On peut mitrailler. Et je prends un exemple en ce qui me concerne. Je fais un travail sur certaines expositions, sur des thématiques qui sont un peu complexes au niveau de la prise de vue, notamment une série sur les échafaudages. Je sais que si j'étais en argentique, je n'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait, parce que ça m'aurait coûté beaucoup trop cher, parce que pour trouver le bon angle de prise de vue, le bon cadrage, j'aurais fait, pour sortir une photo, j'aurais fait trois pellicules, quoi, peut-être. Hein. Mmh. Donc financièrement, je n'aurais pas suivi. Donc ça... Et puis, tout ce qui va avec le numérique, les logiciels, etc., vont permettre de sublimer aussi les photos et d'une façon intéressante au niveau du rendu.
Voilà. Moi, j'aime bien la contrainte. Des fois, quand je me balade, je me dis, tiens, cette balade-là, je la fais à 24 photos numériques, comme si j'avais une pellicule, et je n'ai pas du tout la même balade, le même œil, parce que c'est comme si j'avais une pellicule de 24.
D'accord. effectivement.
C'est le côté ludique de la chose. Il y a des applis sur les smartphones où t'es limité à 12 photos, 8 photos, et puis il faut attendre un certain temps pour que tu aies le temps d'avoir tes photos, parce que c'est de la simulation, c'est une recherche du plaisir. Moi, je dis qu'il n'y a pas de débat argentique numérique, ça existait peut-être au début, parce que il y avait l'attrait du nouveau, les anciens et les nouveaux, comme il y a toujours eu. Est-ce que le vinyle est mieux que le CD, ou le CD est mieux que le vinyle? Sont des choses tout à fait différentes. En photographie, pendant des années et des années, des dizaines d'années, on a cherché d'avoir le grain le plus fin, on a cherché à avoir le contraste le plus profond, le plus large. Ensuite, on a fait évoluer les pellicules, on a essayé d'avoir les couleurs les plus naturelles. Et quand on a obtenu ça dans le monde de l'argentique, est arrivé le numérique. Et la première chose qu'a essayé de faire le numérique, c'est des applications les plus, entre guillemets, des gros guillemets, les plus dégueulasses pour retrouver les images qui avaient du grain, les images qui vignotaient, etc. Et on trouvait ça charmant. Et j'y ai joué, puisque j'ai même créé une exposition qui s'est appelée Click Hipstamatic. Click Clap, voilà, on avait joué ce jeu-là. Quand j'ai écrit mon premier livre sur la photo numérique, on a fait des réunions et des débats dans les clubs photo, et les gens essayaient de nous dire « Oh, l'argentique est mieux que le numérique ». Maintenant, je dirais à ces gens-là, mais le débat n'existe pas, puisque le grain de la pellicule argentique qui crée l'image, il est 10, 15, 20 ou 100 fois plus gros que le pixel qu'on arrive à faire maintenant. Donc la photo numérique a toujours singé la photo argentique. Quand je dis singé, c'est une image. Et essayer de copier la photo argentique en l'améliorant, en améliorant les outils. Maintenant, vous avez des applications sur les logiciels qui vous simulent toutes les émulsions qui existaient à l'époque. Vous pouvez faire du vrai VR de chez Kodak, vous pouvez faire du noir et blanc de chez Agfa, etc. Puisque, de toute façon, on a créé les modèles. Bon, après, si on veut aller passer 5 heures, parce que c'est un plaisir d'aller faire remonter un contraste en sentant le révélateur pendant 24 heures derrière, parce que ça imprègne bien et les vêtements et les mains, c'est un plaisir. Moi, j'avoue franchement que j'ai fait ça pendant 25 ans, depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Quand le numérique est arrivé, j'étais tellement content de me concentrer sur mes images, et c'est ce qui reste intéressant. Et si on veut donner un effet grain, on peut le faire sur l'ordinateur. Après, c'est un plaisir pour les uns ou pour les autres, mais le combat argentique numérique, il y a longtemps qu'on est passé au-dessus, je pense. Enfin, en ce qui me concerne, je continuerai à écrire des livres sur la photo numérique. Et je continuerai à apprendre à certains de mes étudiants à faire de la photo argentique. Parce que c'est un vrai plaisir de voir la photo apparaître dans le noir, dans le rouge.
Oui.
Excuse-moi. Je voulais changer un tout petit peu par rapport au thème, à la question. Parce que je n'ai pas pu l'aborder tout à l'heure, enfin, vous répondre. Sur effectivement la photographie, ce que ça permet dans la communication et dans des projets qu'on peut mener, notamment des actions des jeunes ou sur des actions concrètes. C'est-à-dire que dans le cadre de... Je reviens à mon métier d'éducateur, pour être plus précis. J'ai souvent utilisé, grâce à la photographie, j'ai pu faire des projets avec des collègues de façon intéressante. Je veux rappeler, parce que c'était important dans mon parcours, on a une époque sur le quartier de la Guérinière, qui était assez ciblé d'une façon très très négative. On avait mené avec des jeunes du quartier, des jeunes adultes, pendant un an, un projet autour de la photographie et de l'image du quartier. À l'époque, c'était encore l'argentique.
Ouais.
On y a passé beaucoup de temps, avec toutes les semaines, dans les vitrines du quartier, des expositions que les jeunes avaient faites de leur quartier. Tout ça pour changer l'image du quartier.
Ouais.
Ça, c'est une action éducative, sociale, mais qui a son importance et qui a eu des retombées absolument positives. Et pour les jeunes qui ont participé, parce qu'après, il y en a qui ont poursuivi. Il y en a qui ont poursuivi un peu dans le domaine. Les autres, non. Mais socialement, qui les a ouverts à plein de rencontres et à plein d'ouvertures. Donc, c'est vrai que c'est un champ. La photographie qu'on l'utilise, qu'on a une capacité à faire des choses avec cet outil-là, qui sont formidables, qui sont sans limite. Alors maintenant, je suis passé à autre chose. D'ailleurs, je suis rentré depuis quelques années, donc j'ai encore plus de temps pour faire autre chose. Et grâce au collectif, avec les collègues du collectif. Donc voilà, je crois que quand on aime qu'on a une passion. Hein, je veux dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas un temps, ça ne s'arrête pas. Je veux dire, j'ai eu la chance, mais ce n'est pas hasard, enfin, j'ai eu la chance de découvrir assez tôt la photographie. Et je pense d'ailleurs que pour les jeunes, c'est important de pouvoir t'initier la photo, la musique, hein, ou le sport, n'importe quoi. Mais que c'est quand on est en présence d'enfants et de jeunes enfants ou, de jeunes, ou d'adolescents, ben, faut pas louper l'occasion de leur faire découvrir plein de domaines, parce qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt.
Oui, puis mais ça stimule l'imaginaire. Ça stimule l'imaginaire, c'est hyper important.
Et ça nous porte. Chacun d'une façon importante dans notre vie, quoi. Hein.
Mais justement, ce que vous avez fait, je peux deux secondes, Alain ? Excuse-moi, je m'incruse dans ton interview. Mais en fait, le travail que vous avez mené avec les jeunes adultes de la Guérinière, ça me fait penser à un travail qui a été mené par un éducateur du CCAS de Giberville vers 2018, au moment du mouvement des Gilets jaunes, avec des personnes qui fréquentaient le CCAS. Et ils avaient en fait des revendications à apporter, et ils l'avaient fait de manière originale. Enfin, que je trouve assez original, c'est-à-dire qu'ils avaient pris en photo en fait uniquement leur regard et ils avaient fait l'exposition Regard invisible. Et il y avait en fait des grands panneaux qui étaient affichés sur un rond-point de la ville de Giberville, je crois. Et il y avait ces regards qui s'alignaient les uns derrière les autres avec plusieurs panneaux et avec à côté un texte qui disait qui étaient ces personnes, quelles étaient leurs situations sociale, économique, etc., familiale et tout ça. Et c'était hyper frappant, enfin, ça frappait le... On ne pouvait pas les manquer. Et en même temps, c'était heurtant, genre, ouais, la violence aussi des situations de vie de ces personnes-là. Voilà, donc ça me faisait penser à ça, je trouvais ça assez beau. Voilà.
La photographie est quand même... un moyen de pouvoir s'exprimer sans maîtriser le langage.
Oui,
l'image parlant. Justement, Benoît n'en a pas parlé, mais le collectif va s'investir de plus en plus dans les milieux scolaires. Et on va lancer une première opération là, dans une quinzaine de jours avec des jeunes allophones et des jeunes migrants. Et on va les faire travailler... On va leur faire découvrir le monde de l'image, des images de reportage, des images d'industriels, des images culinaires, des portraits, etc., différents types d'images. Leur apprendre, avec leur enseignant de français, le vocabulaire qui est lié à la photo, leur faire réaliser leurs propres photos, et ce sera 3-4 séances, je pense, et ils termineront avec une restitution verbale. C'est-à-dire qu'ils présenteront chacun leurs photos avec le vocabulaire acquis. Et
c'est
ça, c'est un projet qu'on va mener avec le lycée Fresnel, là, très bientôt.
Trop bien, mais c'est vrai que, ouais, effectivement, je me réincruse dans ton interview, mais c'est vrai qu'avec la photo, avec un support, mine de rien, l'apprentissage du langage aussi et d'une langue étrangère, parfois on dit qu'il faut apprendre en déchiffrant lettre après lettre, etc. Et en fait, en pédagogie sociale, par exemple, on dit que pas du tout, les aigles ne montent pas l'escalier, c'est en faisant qu'on arrive vers ce qu'on vise. Et donc, je vois Théo qui me sourit au loin. Et donc, ouais, par la photo, parler de sa photo, c'est aussi, du coup, effectivement, développer un vocabulaire. Voilà. Excuse-moi, Alain, je te rends l'antenne.
Oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On aimerait un peu parler avec toi, Linop, de photographie expérimentale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par là ?
Alors ça, c'est l'origine de Surface Sensible avec notre regretté Bernard Caillot. Ce qu'on avait appelé la photographie expérimentale, c'était dans les années 80, fin 78, 79, début des années 80, quand on a créé Surface Sensible, la première exposition qui avait eu lieu au Théâtre de Caen, c'était l'exploration de tous les procédés physico-chimiques qui permettaient de modifier une image. Alors, à l'époque, le numérique n'existait pas. On travaillait avec des produits de virage, c'est-à-dire des substances chimiques qui modifiaient la structure des sels d'argent pour obtenir des images colorées. Il y avait les phénomènes de solarisation qui avaient été mis en évidence par Man Ray, donc la réinsolation de l'image en cours de développement, et puis l'utilisation d'acides, de colorants, d'encre, etc. Et tout procédé physico-chimique pour modifier l'image et lui donner un autre sens. C'était ça la photographie expérimentale, et on a développé ça avec l'arrivée du numérique, et on a on a poursuivi ça jusque malheureusement la disparition prématurée de Bernard Caillot. Et Surface Sensible était axé essentiellement sur la photographie expérimentale. Quand on a repris le Surface Sensible il y a 10 ans, ça va être notre 10e année, on a élargi, on a gardé issu de la photographie expérimentale, puisque c'était notre bulletin de naissance. Et puis, on a élargi à la photographie actuelle et de création, et en incluant effectivement l'image numérique, l'image animée et tout ce qui concerne la photo et la vidéo. Et surtout, avec une grande ouverture vers les jeunes, et notamment, nous, tous les ans, on essaye de créer l'aide à la première exposition, par exemple. Un jeune à qui on aime le travail, le collectif est intéressé par son travail et on lui produit sa première exposition.
Merci beaucoup, le temps passe très vite, donc je redonne la parole à Oxane et on vous remercie de tous ces propos, ces conseils et ces souvenirs.
Bon, Benoît aura bientôt son exposition personnelle, il faut peut-être en parler. Il exposera à la halle de Saint-Aubin, une exposition individuelle qui sera suivie aussi par un autre membre du collectif à Saint-Aubin, qui sera Olivier Laniel. Donc on va occuper pratiquement tout l'été à partir du mois de fin mai, juin-juillet. Et puis l'expo Industriex qui est toujours visible à l'hôtel de ville jusqu'au 5 mars.
Et la halle de Saint-Aubin-sur-Mer ou Saint-Aubin-d'Arquenay?
Saint-Thomas-sur-Mer.
Saint-Thomas-sur-Mer ?
Oui, un très beau lieu.
Ouais. Ouais, magnifique, je partage.
Bon, puis on vous reparlera de notre programme.
Il y a d'autres beaux lieux, quelques beaux lieux sur Caen et la région. Hein. Il y a également, moi, j'ai eu l'occasion aussi d'exposer en mois de mai l'année passée à Arreau.
Oui. La magnifique salle. Oui, très très beau aussi.
Qui est un beau lieu aussi.
Mmh. On présentera au mois de mai, pendant les deux longs week-ends de mai, l'exposition Jules Verne, qui n'avait pas été vue sur Caen, puisqu'elle avait été créée à Bayeux pendant le Covid. Donc on représentera cette exposition autour de Jules Verne.
Eh bien, merci beaucoup Lino Carter et Benoît Le Chartier de vous être prêtés au jeu de l'interview avec nous. Vous restez bien sûr avec nous autour de la table, sauf si vous devez filer, mais on espère pouvoir vous garder avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On rappelle aux auditeurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui nous écoutent, mais que l'exposition Industriex 23, mise en scène par l'association Surface Sensible, est présentée à la salle du Scriptorium de l'Hôtel de Ville de Caen jusqu'au 5 mars. Cette exposition est consacrée à l'industrie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et c'est également dédié au 30e anniversaire de la fermeture de la SMN, Société Métallurgique de Normandie. C'est d'ailleurs sur le site de l'ancienne SMN que nous enregistrons l'émission Bonjour Turbine, avec notre studio installé dans la cité de chantier du WIP. Sans transition, on retrouve maintenant David et sa chronique humoristique. Jingle.
Oui, oui, ben...
Ça va. Le petit jingle.
Et oui, ben alors donc c'est à mon tour. Alors moi je vais vous parler de photos, mais d'une photo personne n'a évoqué pour le moment, la photo de classe. Effectivement, la photo fait parfois ressurgir des souvenirs que nous avions volontairement mis de côté. Par exemple, prenez la fameuse photo de classe. C'est un vrai témoignage accablant et historique sur l'évolution de la mode et le chaos vestimentaire qu'a connu notre siècle. À chacun de mes déménagements, ressurgit des cartons une satanée photo de classe, celle de la 3e 3 du collège des Douilles de Falaise. Image surannée, un peu ridicule et surtout très obsédante. Au secours, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau, chantait Alain Souchon. Force est de constater, en y regardant de plus près, que je ne suis pas le seul sur ce cliché à être vraiment moche. Il faut dire que la mode de l'époque envoyait du lourd. T-shirt de Goldorak, Capitaine Flamme, Maille à l'abeille, Dorothée et Chantal Goya, en surimpression. Autrement, nos gros pulls d'hiver multicolores tricotés par les mains expertes de nos grands-mères avaient au moins le mérite de nous préserver du gel. Alors, quelques bourgeois avaient jalousaient secrètement porté des pulls et des chaussures de marque et le faisaient savoir en général. Alors, moi, j'étais debout à côté de Robé, qui, à cette époque, bégayait un peu. mais avait encore tous ses cheveux. Jean-Louis, lui, avait déjà ce regard vitreux dans le vide qui lui valait tant de succès auprès des filles. Alain, avec sa raie sur le côté et sa coiffure plate, avait déjà une gueule de Gestapo et faisait peur. Il a fini commissaire de police, il ne pouvait pas espérer mieux. Heureusement, Annette, à ses côtés, souriait en offrant à l'objectif une poitrine qu'elle n'avait pas encore sous sa chemise à carreaux. Aline, en blanc, disparaissait, coincée en premier rang entre Marie et Françoise. Elle ressemblait à un spectre à peine visible. En haut à gauche, on peut remarquer Madame Jacqueline Mussin, notre prof principale qui enseignait les maths. Alors elle, c'était une babacool bio, élevée au miel et aux légumes de saison. Elle avait deux enfants, 3, Guillaume et Mathilde, bah oui, on est à Falaise, et Rollo, le chat. Alors son sourire satisfait pourrait laisser croire qu'elle avait la main mise sur notre classe, mais il n'en est rien, étant donné qu'en maths, on se fichait du tiers comme du quart. Arnaud Vernet, en bas à droite, c'est le matheux, un silencieux, on n'entendait pas le son de sa voix, sauf quand il comptait ou qu'il récitait un théorème. Alors lui, il a fini sur le marché à vendre des pommes, comme Newton. Enfin, au centre, on ne pouvait pas la manquer, c'était la déesse, la belle Isabelle. Beaucoup se sont battus pour elle et nous étions tous amoureux en secret de cette demoiselle qui exhalait un parfum exquis, argument supplémentaire de sa séduction. Et dès qu'elle apparaissait, elle aimantait tous les regards. Ses prétendants s'affrontaient en duel sur l'esplanade du départ des bus scolaires pour ses beaux yeux. C'était notre princesse. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je ne pense pas qu'elle soit rentrée au couvent. Au fond, je ne suis pas si mal sur cette vieille photo de classe. Je souris, capte bien la lumière, mes yeux pétillent. Je suis le clown, comme toujours. À cet instant, je cherche... Et je vais trouver le bon mot, celui qui fera rire. La bêtise qui fera sursauter la prof de maths. Mais le photographe a déjà appuyé sur le déclencheur. La photo est prise, c'est un souvenir. Chers auditeurs, toute vraisemblance avec d'autres camarades que vous auriez pu croiser dans votre vie scolaire ne serait que pure coïncidence. Alors nos photos de classe manquent parfois de classe, mais il faut les regarder avec tendresse et beaucoup, beaucoup d'humour.
Merci David, on peut t'applaudir. Mais c'est vrai, ouais, qui n'est jamais tombé sur une photo de classe en se disant oh là là les fringues, oh là là la mode, mais comme quoi la mode ça évolue aussi avec le temps. Mais c'est beau, hein. C'est un métier qui existe encore, photographe de classe.
Photographe de classe.
Ah mais oui, mais oui, oui.
Et t'imagines que moi des photos de classe, non seulement j'ai celles quand j'étais élève, mais celles de mes 30 et quelques années de carrière.
En tant que prof,
en tant qu'institut. Dont 9 années où j'avais 3 classes, puisque je remplaçais les maîtres d'application.
Et là, on peut voir... Toute ta vie, c'est des photos de classe, quoi.
Je revois la mode dont parle David.
Eh ben merci, tu nous as régalé, David, avec la chronique humoristique aujourd'hui. Alain, est-ce l'heure de l'agenda culturel?
Oui, je pense. Donc, jingle. C'est qui?
C'est quoi?
C'est où?
C'est quand? L'agenda culturel d'Alain, le conteur flâneur.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du festival de Bloody Fleury, qui est un événement à ne pas manquer. Et qui va se tenir, comme son nom l'indique, à Fleury-sur-Orne, le festival du polar et du mystère. Donc ça commence le vendredi 3 mars et ça finit le 5. Ça se passe au gymnase Auguste Delaune à Fleury-sur-Orne et ce sera la 8e édition, placée sous le signe d'Arsène Lupin et de Sherlock Holmes. Alors d'abord une exposition Urbex, l'art de Jonque, et une autre exposition Holmes versus Lupin de Vincent Mallier. Une enquête à l'école des sorciers pour les plus jeunes. Ensuite des spectacles. Vendredi en soirée, les carnets de cerises à partir de 8 ans. Samedi, Ronge ton os, les aventures de Loufoque Holmes, profession profiler, ça va être marrant, j'en ai vu une partie en avant-première, et en soirée, café crime, vengeance à la grecque. Et dimanche, deux représentations du spectacle Drago Super Détective. À cela vont s'ajouter des conférences. Samedi, James Bond, l'affaire du Grélé, le tueur était un flic, et les possédés de Loudun. Dimanche, Profession Espion, avec un vrai ancien espion. Les Tontons Flingueurs et le secret de la licorne. Oui, les secrets de la licorne, je confirme, c'est un ancien espion. Les rencontres, samedi, Nicolas Jean, scénariste de HPI. Profession Chasseur de Fantômes, de Frédéric Paulin. Et dimanche, Jonc, profession photographe urbexeur, de Pierre Poucheret. Et ensuite, des dédicaces d'auteurs, un conte dessiné, et j'en passe. Donc, je vous conseille, pour retrouver le programme, les horaires, les invités, les expositions, d'aller sur blody.fleury-sur-orne.fr. Et ça va se passer de vendredi de 17h à 22h, samedi de 13h30 à 19h, spectacle à 20h30, et dimanche, 11h à 12h, des dédicaces et ouverture du festival pour l'après-midi, de 13h30 à 18h. À ne pas manquer, vous, accessoirement, vous pourrez me retrouver derrière un appareil photo. Et maintenant, je vais vous lancer la suite avec une musique qui s'appelle High Flying Birds, Noel Gallagher, Easy Now.
Yes, I understand. Okay. Yeah.
Easy now. Heavy is the head that wears a hollow crown. There must be something in the air. There's talk of revolution here, up above the clouds. Rainy eyes, always be prepared to see.
c'était Easy Now de Noel Gallagher's High Flying Birds. Salut Lafken.
Salut Oxane.
C'est à toi maintenant.
Eh ben, je vous avoue que venir ici dans votre ado, c'était un peu compliqué maintenant que je suis devenu une célébrité. Le mois dernier, les photos de moi s'enchaînaient entre Cherbourg et Paris. Je suis hyper connu. Ma tête est partout, les gens me suivent, m'arrêtent et me demandent de signer des papiers. Plein de papiers. Je vous donne le secret de ma célébrité. Rouler à 260. Les flashs se succèdent, ma tête dans toutes les gendarmeries normandes. Je suis une star.
Dali était-il fou ou sans esprit ? Picasso voyait-il le monde en cube ?
Ok.
La poule vient de l'œuf, mais l'œuf vient de la poule. La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat.
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache ? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête ? Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte ? C'est ça, la folie.
Ok, on fait un arrêt sur image, on prend la pause et on sort les pinceaux. Le jeudi 16 février à 14h30 à la Microfolie, on vous parle de Monet, ce maître de l'impressionnisme. Le 18 février, à la même heure, on réserve aussi le créneau aux enfants pour faire un artiste en carton sur l'univers de Charlie Chaplin. Au final, le cinéma n'est qu'une succession de photos où un mec super rapide en prend 24 par seconde. Ouais, c'est quand même assez fort. Le 22 février à 14h30, on vous parle d'art décoratif, un excellent moyen de découvrir Alphonse Mucha. Si vous ne savez pas qui c'est le Robert Doisneau de l'art déco. Et je finis aussi par vous parler du 25 février, où on accueille Mémoire et Patrimoine, qui vient vous parler de la FMN. Et même vous la montrer en réalité virtuelle.
Trop bien.
C'est génial.
Mais ouais.
Allez, la prochaine fois, je vous dirai aussi ce qu'on fait en mars, mais avant... Pour tous ceux qui sont habitués à notre petit passage dans Bonjour Turbine, mais quoi que c'est le quiz. Alors, cette fois-ci, on va partir un petit peu d'un procédé un petit peu plus américain, un peu à la manière des Jeopardy, où je vais vous donner plus ou moins la réponse. Ce sera à vous de me trouver un petit peu bah, pourquoi cet objet ou cette personne est connue, ou peut-être même une question autour de cette réponse. Par exemple, si je vous mets et je vous dis le mot... Daguerréotype.
Aguerréotype ?
Daguerréotype.
Daguerréotype.
Invention de Daguerre, première photographie.
Alors, c'est effectivement l'invention de Daguerre, mais plus précisément.
Alors, c'était des photos, c'est très joli à voir, parce qu'il faut les regarder en les mettant sur le côté, parce que c'est sur des plaques métalliques. Avec des oxydes d'argent, si je me souviens bien.
Alors effectivement, c'est un procédé photographique fixant l'image des objets sur une plaque d'argent poli, ouais. Exposée directement à la lumière du soleil. Donc c'est pour ça, les regarder de face, c'est pas terrible.
Mmh. C'est très recherché.
C'est très recherché. Alfred, alors je vais écorcher son nom, Eisenstadt.
Alfred
Eisenstadt.
Et il faut qu'on dise qui c'est ?
Cet homme, en tout cas, est connu.
Il est connu. Hmm
moi, j'ai connu Einstein, mais c'était pas le même.
C'est pas le même mari,
ah non, celui-là, je ne l'ai pas dans ma collection.
C'est pas Heisenberg.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
C'est pas Heisenberg. Non, ce n'est pas Breaking Bad.
Qu'est-ce qu'il a inventé le...
Alors, il n'a pas inventé quelque chose. Cet homme a pris une photo. Il a pris une photo qui est célèbre, mais vraiment célèbre, qui a parlé un peu partout dans le monde. Mais vous n'avez pas forcément mis son nom sur cette photo. Il n'est pas connu peut-être pour ça. Il s'agit du baiser volé à Times Square.
Oh, j'allais dire le baiser volé de Paris, mais ça, c'est de Manon, ça.
Oui,
c'est
de...
Oula, il y a des
j'ai été jugé.
Cancel culture. Donc le baiser volé, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la fameuse photo d'un marin qui embrasse une infirmière plein milieu de Times Square.
Et pendant quelques temps, ça a été une statue qui était devant le mémorial de Caen et qui a eu un très grand succès. C'était très belle à voir.
Alors, prochaine phrase, Polaroid.
Bon, ça c'est facile.
Le Pol à qui ?
Le Polaroid.
C'est quand on prend la photo et qu'elle sort.
Procédé du Dr. Land. Procédé du Dr. Land qui permet de développer les photos immédiatement. À partir d'un,
effectivement.
D'un système de superposition de couleurs. C'est une fausse trichromie d'ailleurs.
C'est exactement ça. C'est un appareil photographique instantané permettant d'obtenir directement des photographies argentiques sans passer par des opérations séparées de développement du film et de tirage sur papier.
Alors, on parlait des vieux procédés qui reprennent du poil de la bête, le Polaroid.
Le Polaroid revient à la mode. Il revient très très bien.
Alors il y a beaucoup d'appareils photo et surtout il y a des mini-fabrications des vieux procédés noir et blanc par exemple. Ça coûte très cher. Mais c'est très intéressant parce qu'on a, on peut faire du développement instantané et récupérer les négatifs. C'était le procédé du Polaroid 55.
Et puis le Polaroid, c'était un objet qui avait une gueule pas possible, mais qui faisait aujourd'hui ferait pas vendre. Mais aujourd'hui,
alors, et si
aujourd'hui ils font des roses, des verts pastels, des choses comme ça. Et la grande mode, c'est de faire des cabines avec le Polaroid, et donc dans des mariages, des choses comme ça. Et tu repars avec ta photo que tu viens ou pas coller sur un grand panneau.
Et surtout, il faut aussi savoir que Instagram utilise l'image justement d'un Polaroid. Donc, comme quoi, ça a bien marqué plusieurs générations. Alors maintenant, je vais juste vous dire le nom d'une photo qui s'appelle Afghan Girl.
Eh ben justement, oui, oui. Attends, je l'ai dans mon téléphone.
La Curie.
Comment elle s'appelle?
Steven McCurry.
La jeune femme, c'est Sean Court.
Alors, j'ai pas le nom exact de la jeune fille. On aurait pu dire, effectivement, c'est la photo de Steve McCurry. On aurait aussi pu dire que c'est la photo d'une fille afghane aux yeux verts clairsemés de bleu qui vous scrute profondément. Tout comme on aurait aussi pu dire que c'était une des couvertures les plus vendues et les plus emblématiques de National Geography.
Tout à fait. Et
qui était en fiche d'une expo au Scriptorium, justement,
sur Steve McCurry.
Mais la photo qui était la plus marquante dans cette exposition, c'est celle où là, le gamin qui a le pistolet sur la tempe. Ouais, elle m'a fait chialer cette photo.
Et alors cette jeune femme, en fait, elle s'appelle Sharbat Gula et elle est devenue donc extrêmement célèbre malgré elle. Et depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, elle a dû quitter l'Afghanistan parce qu'elle était trop connue et elle est aujourd'hui réfugiée en Italie. Et il y a un article très intéressant sur Courrier International où elle explique que, mine de rien, cette photo a changé sa vie, mais pas forcément dans le bon sens du terme.
Et bah, c'est bien ce quiz, à part énormément de choses. Et je pense que pour finir, je vais juste vous citer Ilford FP4, Fuji, Velvia, FK et Berger.
Film 24-36, FP4, c'était la grande la grande pellicule emblématique du noir et blanc.
Mais alors pourquoi je vous cite expressément juste cela et pas toute la collection ?
Parce qu'elles sont actuellement à nouveau disponibles.
C'est parce que ce sont les derniers fabricants.
Voilà.
Est-ce qu'on t'entend encore ? Ce sont les derniers fabricants
à effectivement vendre des argentiques.
Les derniers fabricants à vendre des argentiques. Yes, merci Lafken. Et merci de vous être ailleurs. Il y a Alain qui nous sort une boîte. Merci à tout le monde de s'être prêté au jeu. Merci encore une fois à nos invités Lynope Carter et Benoît Le Chartier d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission Bonjour Turbine et on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine émission dédiée à la danse.